Vous êtes un entrepreneur en France et vous regardez tout ça, et puis vous regardez aussi l'ambiance et le fait qu'on se réjouisse d'avoir remis une régulation sur l'AI Act, c'était en début 2024, et vous vous dites, je vais aller aux États-Unis en fait. Et c'est ce qui se passe, ils vont aux États-Unis. Vous avez des investisseurs qui se disent, non mais l'Europe, de toute façon, a perdu, elle réglemente trop. Puis vous avez tout un récit qui est largement utilisé par les États-Unis, qui est de dire, l'Europe perd, parce que de toute façon, c'est des ronds de cuir qui sont en train de réglementer à Bruxelles, parce qu'ils ne savent rien faire, ils ne savent pas innover. Et en fait, c'est un récit qui est destructeur, parce qu'en plus, il est internalisé par les Européens, donc c'est un peu une forme de colonialisme, si vous voulez. Mais le sujet, c'est qu'il faut renverser ce récit. Pour renverser ce récit, il faut aussi réfléchir à avoir des réglementations qui sont plus simples, qui sont plus unifiées, qui nous permettent d'aller plus vite. Aujourd'hui, quelques chiffres, on est 1000 collaborateurs, une valorisation de 12 milliards d'euros et 1 milliard d'euros de revenus visés d'ici la fin de l'année. Nos clients sont des clients entreprises, des clients dans le secteur public. Pour citer quelques-uns en France, on a la DINUM, la Caisse des dépôts, France Travail. Dans le secteur privé, CMA, CGM, Stellantis, Total Energy, BNP Paribas, etc. On fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires en France, 70% dehors, et environ 3/4 de nos chiffres d'affaires en Europe. Pour vous donner un peu une idée de où est-ce qu'on est. Donc on est un exportateur de technologie fondamentalement, à la fois aux États-Unis et en Asie également. Donc, ce qu'il faut comprendre sur l'intelligence artificielle générative et fondamentalement sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que c'est un modèle qui consiste à transformer de l'énergie en intelligence, donc en génération de tokens qui sont derrière utilisés pour déléguer des tâches, pour faire de la recherche en mathématiques, pour opérer des chaînes logistiques, pour améliorer des outils, pour déployer des systèmes embarqués dans des robots, dans des drones, etc. Donc on est dans un métier où on transforme de l'électricité en génération de tokens. Et c'est fondamentalement quelque chose qu'il faut traiter plus ou moins comme une ressource naturelle, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'intelligence comme on réfléchit à l'énergie. Donc nous, notre objet, c'est de fournir une intelligence qui est peu chère, affordable, on va dire en anglais, qui est sécurisée en termes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher chez des Américains, par exemple, et qui est, par ailleurs, durable parce qu'elle transforme de l'énergie qui est moins carbonée qu'ailleurs, parce qu'on utilise en particulier d'énergie française. Je pense qu'on n'y réfléchit pas suffisamment assez de cette manière. C'est-à-dire l'intelligence, c'est comme l'électricité, finalement. C'est comme l'énergie. Et par ailleurs, on a cette tendance, qui est à mon avis une tendance assez fausse, qui est de séparer les services numériques de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le cloud, c'est l'intelligence artificielle. La croissance du cloud, c'est l'intelligence artificielle. Les services à haute valeur ajoutée, donc à forte marge, qui permettent de faire de la R&D, c'est l'intelligence artificielle. Donc en fait, tout le reste, à partir du moment où on gagne en intelligence artificielle, on peut construire tout ce qui est le reste des services cloud, qui sont essentiellement des commodités aujourd'hui, et qu'il faut savoir, essentiellement, ça consiste à savoir opérer du logiciel qui est open source, parce que c'est devenu l'infrastructure mondiale. Nous, notre objectif, c'est évidemment d'ancrer cette chaîne de valeur, donc là où on est dans la chaîne de valeur, c'est entre l'opération des clusters et l'opération des serveurs jusqu'à la création des applications métiers. Et je pense que c'est une unité atomique de la chaîne de valeur qui va de la construction de semi-conducteurs, donc de ASML par exemple, cette entreprise qui est un de nos clients qui fait de la lithographie, jusqu'à le déploiement dans les entreprises. Il faut arrêter de penser à la souveraineté comme un isolationnisme. Il faut y penser comme ils pensent les personnes qui font des affaires. C'est-à-dire qu'il faut penser à la souveraineté comme un sujet de levier. C'est-à-dire que dans un monde où vous importez la totalité de vos services numériques aux États-Unis, vous n'avez pas de levier sur les États-Unis. Dans un monde où vous créez une partie de vos services et éventuellement vous les exportez, vous avez un levier supplémentaire. Dans un monde où vous vendez des biens aux États-Unis, vous avez du levier dessus, on le voit dans les négociations de l'Union européenne. On exporte un certain nombre de choses, ça nous donne des arguments et des cartes à jouer quand on est à la table de négociation. Si on n'a pas cette capacité à ne pas importer la totalité de nos services digitaux, nos services numériques des États-Unis, on a un vrai problème. Le problème qui arrive, en fait, c'est que ce dont on parle, je pense que le marché total dont on parle, il faut le comparer à la masse salariale. Aujourd'hui, chez Mistral, notre consommation d'intelligence artificielle pour nos employés, c'est 10% de notre masse salariale. Alors, on fait cette technologie, donc on l'adopte un peu plus rapidement qu'ailleurs. Mais si vous extrapolez, d'ici 3 à 4 ans, la totalité de l'Europe utilise l'intelligence artificielle pour 10% de sa masse salariale. 10% de la masse salariale de l'Europe, c'est à peu près 1 trilliard. 1 trilliard, c'est donc des services numériques, parce qu'il faut les générer, les tokens, etc. C'est 1 trilliard si on les utilise, si on importe de la technologie non européenne, c'est 1 trilliard de déficit commercial à rajouter à notre déficit commercial existant sur les services numériques. C'est 1 trilliard qui repart ailleurs pour être investi en R&D et qui n'est pas réinvesti en R&D en France, donc en France ou en Europe. Donc ça, je pense que c'est un point très important, c'est qu'il faut réfléchir à ce sujet de souveraineté d'un point de vue macroéconomique. C'est un sujet macroéconomique essentiel et je pense dont on ne prend pas, dont on ne réalise pas la teneur. Donc ça, c'est un premier sujet. Alors sur le sujet du temps, je dirais qu'on n'a pas le temps. Je pense que notamment parce que c'est lié à des contraintes physiques. On parle de ressources naturelles. On parle d'utilisation de ressources naturelles pour transformer de l'électricité en token. Il n'y a pas une électricité infinie dans le monde. Les États-Unis saturent leur électricité pour la transformer en intelligence artificielle. Ils déploient $1 trilliard l'année prochaine. Quand ils déploient $1 trilliard, ça veut dire qu'ils veulent $2 trilliards en retour. Donc ils voient bien qu'il y a un marché immense qui se crée. Et ils voient bien que, en fait, celui qui possède la ressource, celui qui se fournit les chips, celui qui possède les électrons, qui possède les centrales éventuellement ou qui a accès à l'énergie de manière massive, c'est celui qui gagne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez ces 9 gigawatts, c'est 90 terawattheures par an qui sont disponibles en France. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. En partie, on va faire de l'intelligence artificielle. Vous avez des acteurs qui ont des bilans énormes et qui ont largement de quoi mettre l'argent sur la table avant de voir la demande pour transformer les électrons en intelligence. Mais sauf qu'ils vont le faire dans les 2 années qui viennent. Une fois qu'ils l'ont fait, vous n'avez plus d'électricité. C'est-à-dire qu'il faut attendre les centrales, il faut en créer des nouvelles, etc. Donc vous avez une forme de monopolisation de la ressource énergétique européenne qui est en cours, qui est en train de s'accélérer à une vitesse folle, et dont on n'a pas conscience. Et c'est vraiment irrémédiable. C'est-à-dire qu'une fois, c'est-à-dire qu'on a déjà un problème de demande. C'est-à-dire que les Américains sont arrivés avant sur le cloud, c'est eux qui fournissent toute l'industrie européenne, ils fournissent si vous voulez l'État français évidemment. La part de marché du cloud et de l'intelligence artificielle a plutôt tendance à se compresser pour les acteurs non américains, c'est-à-dire que non seulement ils grossissent avec le marché, mais en plus de ça, leur part augmente. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut s'inverser avec l'intelligence artificielle, et ce qu'on commence à voir avec nos clients, avec notre revenu, avec notre croissance. Mais le problème, c'est que même si vous résolvez le problème de la demande, vous avez un problème d'offre. Parce qu'une fois que l'offre elle est monopolisée par des acteurs américains, soudain, nous, on n'a plus d'offre, en fait. Et on ne peut plus transformer des électrons en tokens. Et ça se joue dans les 2 années qui viennent. C'est-à-dire que ce qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui en termes d'investissement, c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars. Et pour le faire, il faut avoir une visibilité sur le marché. Et la visibilité sur le marché, elle doit être indiquée par les acteurs européens, par les États européens. Aujourd'hui, elle n'est pas indiquée de manière suffisamment massive pour que nous, on puisse prendre le risque de déployer 100 milliards de dollars. Enfin, un des problèmes réglementaires de l'Europe, c'est que fondamentalement, à chaque fois que vous rentrez dans un pays européen, vous devez ouvrir une nouvelle entité, vous devez comprendre un nouveau régime de stock options, vous devez comprendre une réglementation du travail qui est différente. Et donc, ça veut dire qu'il faut assez vite une équipe sur place. C'est-à-dire qu'il faut que moi... J'ai signé des centaines de documents pour ouvrir des entités dans une dizaine de pays d'Europe. J'ai ouvert des dizaines de comptes en banque, parce que en général, il faut un compte en banque associé. Enfin, vous avez tout un tas de réglementations qui sont des réglementations nationales, qui sont non unifiées. Vous avez une fiscalité, évidemment, qui n'est pas unifiée, alors qu'il faudrait absolument qu'elle soit unifiée si vous voulez avoir des systèmes d'incitation des employés qui ont à peu près du sens. Donc nous, on essaye de... Alors on patche les choses, on essaie de faire des choses qui sont le plus juste possible, mais on se retrouve avec des situations fiscales qui sont franchement disparates entre les pays, donc ça c'est relativement catastrophique. Donc en fait, vous pouvez pas avoir de marché unifié si vous n'avez pas une forme de fiscalité unifiée, si vous n'avez pas une forme de droit social unifié, etc. Donc ça c'est une première chose, je dirais que c'est la principale lourdeur. Ensuite, vous avez tout un empilement de réglementations qui sont plus ou moins cohérentes entre elles et qui nous forcent à documenter beaucoup de choses. Donc vous avez le RGPD... Vous avez toutes les lois sur le copyright et le text and data mining. Vous avez maintenant l'AI Act, qui n'est pas encore mis en œuvre, mais qui va l'être à partir d'août. Alors, tous ces trucs disent des choses plus ou moins... touchent à des choses assez similaires, en général. Ça touche à la donnée, ça touche à la donnée personnelle, ça touche à ce qui est sur Internet. Et en fait, ça ne dit pas exactement la même chose. Ça demande de la documentation, qui est différente. C'est mis en œuvre par 27 organes de mise en œuvre différents en Europe, qui sont plus ou moins zélés, suivant les pays. Et donc, on se retrouve, nous, moi, je me retrouve avec une équipe de compliance qui fait 5 personnes. Et ce qui est... aujourd'hui, pour nous, c'est jouable, parce qu'en fait, on est suffisamment gros. Mais vous êtes une nouvelle... Vous êtes un entrepreneur en France, et vous regardez tout ça. Et puis, vous regardez aussi l'ambiance et le fait qu'on se réjouisse d'avoir remis une régulation sur l'AI Act. C'était en début 2024. Et vous dites, je vais aller aux États-Unis, en fait. Et c'est ce qui se passe, ils vont aux États-Unis. Donc nous, on a surmonté cet aspect, parce qu'on est assez gros, on va, ça rentre dans les overheads de coûts, ça reste très pénible, et puis, mais c'est surtout que vous perdez plein d'entrepreneurs qui partent ailleurs, parce qu'ils ont peur. Et vous avez des investisseurs qui se disent, non mais l'Europe, de toute façon, a perdu, elle réglemente trop, puis vous avez tout un récit qui est largement utilisé par les États-Unis, qui est de dire, l'Europe perd, parce que de toute façon, c'est des ronds de cuir qui sont en train de réglementer à Bruxelles, parce qu'ils savent rien faire, ils savent pas innover. Et en fait, c'est un récit qui est destructeur parce qu'en plus, il est internalisé par les Européens. Donc, c'est un peu une forme de colonialisme, si vous voulez. Mais le sujet, c'est qu'il faut renverser ce récit. Pour renverser ce récit, il faut aussi réfléchir à avoir des réglementations qui sont plus simples, qui sont plus unifiées, qui nous permettent d'aller plus vite. Nous, on a plein d'études micro chez nos clients qui font des retours qui sont largement supérieurs à ce qu'ils dépensent aujourd'hui en intelligence artificielle chez nous. Donc des cas d'usage où les gens font 50 millions de retours sur investissement parce que les machines fonctionnent mieux. Vous avez des gains de productivité de l'un facteur 5 dans les services clients. Facteur 5, ça veut dire que c'est 20% du temps nécessaire à effectuer une tâche par rapport à avant l'intelligence artificielle. Donc c'est très significatif. Des études macro, je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup, hein, parce qu'en fait, on manque de recul. Hein. Enfin, c'est une technologie. L'aspect délégation de tâches, je laisse mon agent travailler pour moi pendant toute la journée, ça ne marche que depuis 6 mois. Donc vous n'avez pas assez de recul en fait pour voir ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que nous, ce que je vous disais, c'est à peu près 10% de notre masse salariale pour équiper nos personnes. Le gain de productivité qu'on fait, je dirais qu'il est l'ordre d'un facteur 2 par rapport à 6 mois, il y a 6 mois. Donc, c'est pas une étude macroéconomique, mais c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'on parle de 10%, 20% des OPEX et de la masse salariale. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. C'est pas forcément 20% de croissance, c'est une partie croissance, une partie destruction d'emplois. En tout cas, destruction ou modification des emplois existants. Et je pense que quelque chose qu'on n'a pas, enfin, pour peut-être repartir sur les sujets plus macro, vous êtes dans une situation où vous avez quand même certains métiers qui disparaissent presque. Et donc les gens s'adaptent, ils s'adaptent assez vite. Hein. Je pense que ça devrait passer. On ne s'est pas exclu qu'il y ait quand même une augmentation dans certains domaines du chômage. Et d'une certaine manière un déplacement de la valeur du travail vers le capital, et le capital qui est pour le moment largement pas du capital européen. Et donc vous avez cette situation qui je pense est assez explosive, hein, entre d'une part vous avez peut-être des destructions d'emplois ou en tout cas des modifications très très rapides de la structure de l'emploi en Europe. Vous avez une situation où tout le monde veut de l'électricité. Et il n'y a pas assez d'électricité. Donc vous avez des conflits d'usage. Conflits d'usage, ça veut dire inflation. Donc vous avez de l'inflation, potentiellement due à l'intelligence artificielle. Et puis troisième élément, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez un déficit commercial qui explose. C'est-à-dire que sur le plan des services, il est multiplié par 5 dans les 5 prochaines années. Situation comme ça, c'est quand même relativement... c'est révolutionnaire, quoi. Donc il faut le prendre en compte, je pense. Il faut en parler plus. Il faut avoir un point de vue... plus long terme sur ce que ça veut dire pour l'économie, ce que ça veut dire pour la société, ce que ça veut dire pour les équilibres géopolitiques. Et si on ne le fait pas suffisamment rapidement pour revenir à votre question, on va se retrouver dans une situation où on n'aura aucun choix. Et ça, c'est une situation qu'on ne voudrait pas voir advenir. Aujourd'hui, les ingénieurs chez Mistral n'écrivent plus de lignes de code. Donc vous avez une manière de travailler en développement logiciel qui a profondément changé dans les 6 derniers mois. C'est-à-dire que avant, c'était plutôt un artisanat. Si vous étiez contributeur individuel, c'est-à-dire que vous écrivez votre code. D'ailleurs, les gens aimaient cet artisanat. Enfin, moi, je viens de là, j'aimais cet artisanat. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un artisan, vous êtes un manager, et donc vous demandez à des agents d'écrire le code pour vous. Donc, en fait, vous donnez les spécifications, vous êtes un donneur d'ordre. C'est quand même un changement assez profond, et ça s'accompagne de gains de productivité qui sont très très importants quand vous êtes tout seul. C'est-à-dire que vous êtes tout seul, vous pouvez aller 10, 20 fois plus vite. Quand vous êtes 5, ça descend parce que vous avez encore les sujets de communication qui reviennent. Quand vous êtes une très grosse entreprise, soudain, vous êtes dans plein de goulots d'étranglement organisationnel, en fait. Donc, c'est cela qu'il faut lever pour avoir les gains de productivité dont on rêve.
Et en ordre de grandeur, ça fait combien de tokens, un salarié digne de code?
Ben, je peux vous dire, je compte plutôt en mégawatts.
C'est combien de mégawatts?
C'est un kilowatt par salarié, si vous voulez. C'est ça l'ordre de grandeur. Un kilowatt par salarié, c'est un demi-GPU. Voilà.
Ça veut dire combien en euros? Parce que la plupart des gens...
En euros, c'est 10 000 euros par an.
Les lignes de code, c'est 10 000 euros pour la ligne.
Ouais, c'est près de 10 000 euros par an. Si vous faites 10 000 euros par an par personne. Donc c'est ça qu'il faut compter. Mais c'est pour ça que je dis, quand je vous dis c'est 10% de la masse salariale, c'est 10 000 euros par an. Et 10 000 euros par an, au niveau de l'Europe, vous avez 400 millions de personnes, c'est 8 trilliards. Ensuite, sur le sujet de la bulle, je pense que pendant longtemps, on a dit qu'il y avait une bulle. En fait, il n'y a pas tellement de bulles. Là, il y a un vrai problème. Une bulle, c'est quand vous dites quand vous surestimez la demande. Là, aujourd'hui, quand on voit la demande en token, tous les gens qui viennent nous voir en se disant « j'ai besoin de plus de tokens que j'avais prévu », en fait, le problème, c'est plutôt un problème d'offre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de logique, donc de chips, il n'y a pas assez de mémoire, il n'y a pas assez de cartes mères, de disques durs, il n'y a pas... Il n'y a pas assez d'hélium, si vous voulez, du côté des semis. Il n'y a pas assez d'électrons. Donc, en fait, sur toute la chaîne de semis, toute la chaîne de chimie aujourd'hui, elle est mise sous pression par l'intelligence artificielle. Donc, il y a plutôt un sujet d'offre que de demande aujourd'hui. Ensuite, évidemment, pour que le modèle économique fonctionne, quand vous investissez 50 milliards pour faire un gigawatt et vous êtes une entreprise de technologie, vous voulez repartir avec 100 milliards. Si vous repartez avec 100 milliards, ça veut dire que vous devez créer 200 milliards de valeur pour votre client. Est-ce qu'on est à peu près à ces équilibres-là? Je dirais pas complètement, parce qu'évidemment, on met de l'argent sur la table au début, parce qu'on sait que quand on a capturé la demande et l'offre, ensuite, on peut monter les prix, on peut monter les marges. Et donc, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si vous ne déployez pas suffisamment vite, vous n'allez pas capturer suffisamment de parts de marché. Derrière, vous avez des oligopoles qui se forment, et ils vont retrouver leur bille. Vous n'avez pas toute l'économie américaine qui met 1 trilliard sur la table par an s'ils ne se disent pas qu'ils vont repartir avec 2 trilliards. Enfin, je ne m'inquiète pas pour eux. Je m'inquiète plutôt pour nous.
Merci. Arnaud Saint-Martin.
Est-ce que demain, les Américains pourraient racheter Mistral AI?
Ils sont évidemment... Alors, les Américains, vous avez quelques vicieux au capital. C'est à peu près moins de 30% de notre capital. Encore une fois, on aurait été ravis de prendre des Européens. Il n'y avait pas les Européens. Donc, il y a un moment donné où on perd les économiques. C'est-à-dire que le retour sur investissement dans Mistral, il y a une partie qui repart... Il y a une partie qui est la partie General Partner qui repart aux États-Unis sur les fonds américains. Et puis, vous avez la partie LP qui, en général, les fonds américains, ils vont lever eux-mêmes dans le monde entier. Donc, en fait, il y a une partie qui repart même en Europe de ce point de vue-là. Donc, on perd un certain nombre... on perd du retour. C'est dommage. Mais on perd du retour parce qu'on n'a pas tout l'écosystème. C'est comme ça. Nous, notre objectif, c'est de rester indépendant. Enfin... si vous voulez, évidemment, il y a des gens qui nous demandent s'ils peuvent nous racheter. Nous, on répond non, parce que c'est pas notre mission. Et notre mission, c'est d'être indépendant. Et notre mission, c'est d'aller vers une cotation à terme et de faire en sorte de fournir cette alternative. Voilà. Ensuite, évidemment, c'est lié au fait qu'on... Si vous réussissez, vous faites pas racheter. Si vous faites racheter, d'une certaine manière, vous avez raté quand même. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait qu'on y réfléchisse. Parce que, effectivement, il y a quand même beaucoup d'entrepreneuriat en Europe qui réfléchit à des stratégies d'exit qui sont plutôt des rachats par des sociétés américaines. Bon, c'est une stratégie qui est perdante. Enfin, c'est une stratégie qui, macroéconomiquement, elle est vraiment dommageable, quoi. Donc, il faut y réfléchir comme ça. Il faut créer des champions européens qui sont indépendants. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille. On n'a pas encore gagné, mais on y travaille.
Je ne sais pas si vous aviez encore des propos que vous souhaiteriez ajouter suite à cette audition.
Non, je pense qu'on a couvert pas mal de points. Je dirais que un des sujets, il faut vraiment faire attention à ce sujet, de ne pas distinguer le cloud et se dire on a perdu la bataille du cloud, il faut qu'on remonte sur le cloud. Pour remonter sur le cloud, il faut passer par la valeur ajoutée importante. La valeur ajoutée importante, celle qui fait la croissance, c'est l'intelligence artificielle. À partir de là, tout le reste du cloud peut découler. Mais il faut concentrer les efforts aux endroits où on est fort. Il se trouve qu'on a cette chance d'être relativement fort en intelligence artificielle. Il se trouve qu'on a cette chance d'avoir de la capacité électrique. Si on combine les deux, on peut retrouver une part de marché qui est soutenable. Et il faut absolument le faire, parce que sinon, on va devenir un état vassal.
Merci. Pas forcément pour les derniers propos, mais... Merci pour l'audition.
On a bien compris. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère.
On a bien compris le message final et ce qu'il allait falloir que l'on puisse faire à l'Assemblée nationale.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites.